Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe. Et aujourd'hui, pour cette émission, eh bien, nous allons changer un peu de format. Et je dis tout de suite bienvenue à Monsieur Imana Knosp. Ben, présentez-vous, tiens, voilà.
Isabelle Knosp, donc je suis la nouvelle responsable du séminaire des Barbelés, où j'accueille donc un grand nombre de visiteurs
Fanstock.
Voilà, pour présenter le séminaire et l'abbé Fanstock.
Alors, cette émission particulière parce que cette année, c'est le 60e anniversaire du retour des cendres de Fanstock et le 75e anniversaire de son décès à Paris à l'hôpital Cochin. Et il se trouve que Fanstock, c'est une... Enfin, je n'allais pas dire une... Oui, une célébrité chartraine, quand même, mais aussi une célébrité nationale par son... travail auprès du, disons, des prisonniers arrêtés par la Gestapo et qui étaient à Paris et qui rencontraient Fanstock, disons, dans leur dernier moment. Mais c'est à vous, Madame Knosp, de nous parler d'abord de la jeunesse de Fanstock, parce que déjà, il me semble que dans sa jeunesse, il était prédominé, intéressé par les relations avec la France, ce qui était quand même rare entre les deux guerres.
Oui, je dirais que d'abord, Fanstock a été très marqué par le départ de son père pendant la guerre 1914-18 sur le front russe, tellement marqué que, en réalité, je dirais qu'à partir de là, il n'a eu de cesse de travailler pour la réconciliation franco-allemande.
Travailler pour la paix, donc.
Oui, travailler pour la paix. Et les premiers pas de Fanstock sur le territoire français sont en 1926 quand il va participer au Rassemblement national démocratique organisé par Marc Sangnier dans sa propriété de Bierville. Ça a été un déclencheur décisif pour Fanstock. D'abord parce qu'il y fait la rencontre de Joseph Folier, fondateur des Compagnons de Saint-François, et puis de Paul Moreil, jeune séminariste français, qui va inviter Fanstock à venir séjourner quelques jours en Corrèze, à Tulle.
Je dis à son camp de Tulle.
Voilà. Et là, Fanstock va découvrir une France profonde, des hommes de la terre. Et à partir de là, Fanstock dira « La France ne m'a plus quittée et c'est là que j'ai appris à aimer la France ».
Alors après, il y a aussi les rencontres qui l'amènent à être parmi les responsables religieux pour l'aumônerie des Allemands en France. C'est
voilà.
Quelque chose de ce genre, il me semble.
Absolument. En 1934, alors je reviendrai plutôt un petit peu en arrière, en 1928, il décide de faire sa troisième année d'études à Paris. Il sera accueilli au séminaire des Carmes par le père Verdier et fera ses études à l'Institut catholique de Paris. Et puis, il rentre donc en Allemagne et en 1934, le père Verdier, qui est devenu archevêque de Paris, se souvient de ce jeune étudiant allemand et va faire en sorte que l'abbé Fanstock devienne le recteur de la mission catholique de Paris. De 1934 à 1939, c'est les années heureuses pour l'abbé Fanstock. Difficile, mais heureuse, parce qu'il va...
Il accompagne, en fait.
Oui. Non, là, il s'occupe principalement de cette paroisse.
Ben oui, mais il accompagne une paroisse allemande.
Oui,
même.
Absolument, en langue allemande. Et puis, il va continuer à s'imprégner de notre culture. Pour Fanstock, ce qui était important, c'était apprendre à se connaître pour apprendre à s'aimer. Et donc, pendant cette période, il va s'imprégner de notre culture, il va visiter la France, la parcourir du nord au sud, si je puis dire, passer ses vacances en Bretagne. 1939, c'est la déclaration de guerre. Fanstock rentre en Allemagne et dès 1940, à nouveau, on va faire appel à lui pour diriger cette mission catholique à Paris.
Donc, en fait, d'emblée... Il est déjà franco-allemand. Franco-allemand
oui.
Avant l'heure.
Oui, oui. Fanstock a adoré la France. Il aimait la France sans jamais renier sa patrie. Mais il était très attiré par notre culture, oui.
Alors, c'est la guerre. avec cette violence, ces arrestations, enfin, et là, c'est là que se révèle le patriotisme de Franz Stock, certes, mais aussi le souci de ceux qui sont dans les griffes de la Gestapo.
Oui, absolument. Franz Stock va être nommé aumônier de ces prisons parisiennes, Cherche-Midi, Fresnes et La Santé, en 1941. Et à partir de là, il va apporter son aide à tous ces prisonniers. D'ailleurs, ces prisonniers qui, par la suite, ont écrit des lettres en disant que Franz Stock, c'était la lumière qui rentrait dans ces cellules. Et l'abbé Franz Stock va, comment dire, aider ces personnes qui, pour certaines, étaient condamnées à mort et donc va les accompagner jusqu'au poteau d'exécution. Il va surtout les préparer à cette mort et va faire en sorte que ces hommes puissent partir libres en pardonnant à l'ennemi héréditaire qu'était l'Allemagne. Dans beaucoup de lettres écrites par ces hommes, beaucoup partent en écrivant à leur famille de n'avoir aucune haine contre ceux qui les fusillent. Et ça, c'était le travail de l'abbé Franz Stock. C'était, oui, à les amener à pardonner. Il va faire un travail considérable puisqu'il sera le lien indéfectible entre les prisonniers et les familles. Les messages vont circuler dans un sens comme dans l'autre. Et puis, il va surtout être là pour les entendre. Edmond Michelet disait que Franz Stock parlait peu, mais par des gestes, va faire en sorte de se faire accepter, j'allais dire, hein. Il rentrait dans la cellule, paraît-il qu'il ne parlait pas, et qu'il s'approchait de leur épaule. Il se frottait à leur épaule pour leur dire, voilà, je suis là, vous pouvez compter sur moi. Il a transporté beaucoup de choses qui étaient interdites en prison. Par exemple, de la nourriture, des livres, des peignes, du shampoing, enfin tout ce qu'on lui demandait. Et je dirais qu'il a mis sa vie en danger parce que malgré tout, il était surveillé par la Gestapo. Et quand il sentait qu'il y avait du danger, eh bien, il se faisait oublier en partant dans sa Bretagne pendant quelque temps, puis ensuite il revenait et il reprenait son poste.
Ce qui me paraît important dans ce que vous racontez, c'est qu'en fait, nous sommes ici dans des relations entre la France et l'Allemagne, puisqu'en fait, il s'agit de construction européenne, où nous sommes au plus petit niveau, au niveau vraiment des populations et au niveau où il n'y a plus rien à espérer. C'est la mort qui guette du côté français. Donc, je pense que c'est ça qui me paraît important comme message, c'est que le plus petit des citoyens d'un pays ou d'un autre de cet espace européen compte. J'ai l'impression qu'il y a un message à retenir, c'est ça. C'est que même celui qui est au fond de sa prison, il a de l'importance aux yeux de Franz Stock, mais aussi aux yeux des autres. Et c'est ça qui me paraît intéressant, à la fois pour dire un modèle pour les populations, mais un modèle aussi pour les dirigeants, pour ceux qui sont responsables, pour faciliter justement cette relation entre ceux qui sont en place et ceux qui sont les plus petits.
Oui, parce que Franz Stock n'avait fait aucune différence en prison. Il visitait toutes les personnes.
Edmond Michelet comme
Comme,
les
alors,
citoyens lambda.
bien sûr, Destienne d'Orves, bien sûr, grand chrétien, mais Gabriel Péri, grand communiste, celui qui ne croyait pas au ciel. Eh bien, Franz Stock allait le visiter. D'ailleurs, ils ont énormément dialogué ensemble. Et avant qu'il ne soit exécuté, Gabriel Péri a remis son alliance à Franz Stock, qu'il l'a remise à son épouse.
Donc ça veut dire aussi que cette alliance entre les peuples, elle doit se faire quel que soit le parti. Parce que, à ma connaissance, Edmond Michelet, c'était plutôt quand même alors, en caricaturant, plutôt quelqu'un de la droite modérée. Et puis Gabriel Péri, communiste. Donc on voit là aussi que l'Union européenne, le monde européen doit se faire en tenant compte de toutes ses composantes.
Absolument, de toutes les différences, que ce soit, j'allais dire, religieuses, mais que ce soit aussi de convictions politiques.
Là, je pense que, Michel, vous auriez peut-être quelque chose à dire quand même. Ça rejoint les convictions des pères de l'Europe.
Mais on va sans doute y revenir quand on va aborder la manière dont ça s'est passé au séminaire des Barbelés à la fin de la guerre. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens par rapport à l'Europe, c'est les valeurs que Franz Stock a finalement symbolisées, et pas symbolisées uniquement, mais a mises en pratique. Donc les valeurs sur lesquelles, ensuite, plus tard, au lendemain de la guerre, on a pu
construire
l'Europe et faire la paix et le réconcilier en particulier la France et l'Allemagne.
Eh bien, nous allons faire une petite pause avant de reprendre l'histoire de Franz Stock. Eh bien, nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue en Europe et cette émission est consacrée à Franz Stock puisque c'est l'anniversaire d'un certain nombre de dates importantes pour sa vie. Et nous évoquions son parcours et nous voyions l'attitude de l'aumônier des prisons françaises au service des prisonniers faits par la Gestapo, faits par l'Allemagne. Donc c'était les Français. Et chemin faisant, la guerre se déroule, et puis nous arrivons au moment de la libération, les Américains, la reconquête du territoire. Et qu'est-ce qui va se passer justement pour Franz Stock? Racontez-nous un peu, parce que là, bon, pour lui, on peut dire, la mission est terminée. Et ce n'est pas comme ça qu'il perçoit les choses.
Non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il les perçoit. Oui, il a fait son devoir auprès des Français, mais maintenant, il doit s'occuper de ses compatriotes.
De ses compatriotes qui sont devenus des prisonniers.
Voilà, qui vont devenir des prisonniers. Qui vont devenir des prisonniers. D'abord, il va se diriger vers l'hôpital de la Pitié, qui était l'hôpital allemand de l'époque à Paris, et pour apporter son aide. Il y avait des grands blessés, et il y avait des combats de rue, et un groupe de résistants arrivent à l'hôpital et veulent exécuter tous les blessés qui sont là. Le directeur va vite s'enquérir de l'abbé Franz Stock et quand Franz Stock arrive, eh bien lui et le chef des résistants qui se trouvent là se reconnaissent. Pourquoi ? Parce que Franz Stock l'avait aidé en prison. Je t'ai aidé en prison. Eh bien maintenant, c'est à toi de m'aider. Donc il n'y aura aucune exécution, bien au contraire, l'hôpital sera placé sous la protection de la résistance. Et puis, les Alliés...
Ça, j'aime beaucoup ce passage, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Oui.
De générosité, et là aussi, une leçon pour nous, Européens.
Absolument, absolument. Les Alliés arrivent donc à Paris et font prisonnier les soldats allemands, mais Franz Stock n'est pas un soldat, il porte une soutane, c'est un civil. Alors non, il n'est pas question de le faire prisonnier. Mais Franz Stock insiste, il veut rester avec ses compatriotes. Et alors, eh bien, on va lui donner un titre de commandant de santé pour qu'il parte avec les siens. En principe, il devait partir vers l'Angleterre. L'avion a quelques déboires, ils atterrissent à Cherbourg et il sera donc prisonnier dans le camp de la Glacerie près de Cherbourg. L'abbé Franz Stock va se démener comme un diable, j'allais dire, pour pouvoir assurer une pastorale auprès de ses compatriotes. Il va aller jusqu'à Paris, d'ailleurs, accompagné de soldats américains, afin de récupérer des valises chapelles, des missels, des hosties. Et il va parcourir une grande partie du Cotentin, où il y a environ une trentaine de camps de prisonniers allemands. Et puis, après la guerre, enfin, à la fin de la guerre, pour ainsi dire, deux hommes vont imaginer d'aider l'Allemagne à se reconstruire par le clergé, en formant un séminaire dans un camp de prisonniers allemands.
Pourquoi
sur le territoire de, sur le territoire de France.
J'imagine que c'est la question à laquelle vous allez répondre.
Pourquoi ?
Pourquoi Chartres ?
Ben parce que d'abord, il y a un grand camp de 50 hectares où se trouvent 38 500 prisonniers allemands. Ce camp est divisé en 12 parties. Et le bloc numéro 1, nous le verrons, va servir aux futurs séminaristes. Mais ce qui est très important, c'est l'idée que donc, les autorités ecclésiastiques françaises et militaires, représentées par le général Boisseau d'un côté et par l'abbé Rodin de l'autre, ces deux personnes vont penser qu'il était judicieux d'aider l'Allemagne à se reconstruire, ne pas recommettre ce qui avait été fait après le traité de Versailles en 1919 et qui avait
commencé les mêmes bêtises.
Voilà, qui avait absolument asservi l'Allemagne et qui avait été le terreau fertile à la montée du nazisme. Alors, ne pas reproduire cette erreur, mais penser justement à aider l'Allemagne à se reconstruire par le clergé. Pourquoi ? Eh bien, parce que à la fin de la guerre, le clergé allemand était presque inexistant, puisque Hitler avait fait enfermer dans le camp de Dachau, près de Munich, tous les prêtres qui avaient été contre ce régime. Donc, plus de clergé. Donc, il fallait penser à le reconstituer. Et il fallait trouver donc des futurs séminaristes.
Des futurs séminaristes, puis des futurs professeurs aussi, j'imagine.
Absolument. Donc les séminaristes, eh bien, ils sont retenus prisonniers dans différents camps en France. Et puis, des professeurs, eh bien, on va se saisir de quelques-uns qui étaient dans le camp du Coudray, près de Chartres. Et puis surtout, l'abbé Rodin va charger l'abbé Lemeur, son bras droit, de contacter deux universités qui avaient repris quelques fonctions en Allemagne, l'université de Freiburg en Brisgau et de Mayence, qui vont toutes deux fournir le matériel nécessaire pour étudier et surtout envoyer des professeurs qui vont se constituer prisonniers pour aider ces séminaristes qui vont donc séjourner à Chartres.
D'où le séminaire des Barbelés.
Absolument.
Oui, alors c'est vrai aussi pour nos éditeurs, on peut rappeler qu'à cette époque, la France est catholique, en tout cas, disons, sociologiquement, même si fondamentalement on ne sait pas. Et puis, dans tous les pays d'Europe, on a encore une fibre religieuse importante.
Oui.
Donc, on va... quel lien on peut établir entre, justement, cette période qui finalement nous achemine vers la paix, puisque finalement le séminaire des Barbelés va fonctionner jusqu'à quelle époque ? Un petit peu après la guerre, il me semble, après fin des hostilités.
À Chartres, il va commencer le 17 août 1945.
Oui, donc on est
voilà.
Quand même...
Voilà, et il va fermer ses portes le 5 juin 1947. Pendant ces deux années...
Oui, quand même, il y a 2 ans.
Oui, pendant ces 2 années, il est passé dans ce séminaire, 939 étudiants et professeurs. Il en est issu 630 prêtres, dont 4 évêques et 2 pères abbés. C'est la réussite même.
Alors, la réussite même, et puis dans la fonction universitaire et scolaire.
Absolument, parce que ces deux universités, Freiburg en Brisgau et Mayence, ont validé les cours qui ont été prodigués au séminaire des Barbelés et surtout validé aussi
les formations qui a été faite.
Voilà, les examens passés. Parce que, bien sûr, tout le monde souhaitait que la guerre se termine et que ces hommes rentreraient un jour sur le sol allemand et que, absolument. Pour ne pas avoir perdu leur temps dans ce séminaire derrière les Barbelés, il fallait absolument que ces cours et ces examens passés soient validés pour qu'ils puissent continuer là où ils avaient laissé leurs études à Chartres.
Là aussi, c'est très intéressant, puisqu'en fait, dans le système européen, quand on a commencé à vouloir établir des équivalences entre les diplômes, à un moment donné, on a dit, bon, si je prends l'exemple des médecins, eh bien... les médecins espagnols ou les médecins italiens ne tuaient pas plus que les médecins français, donc, ou les soignaient aussi bien. Donc on a reconnu les diplômes.
On a reconnu les diplômes.
Et là, ça me paraît intéressant aussi comme démarche. Reconnaître la valeur des autres que l'on accueille dans la communauté. C'est très européen, ça, non ?
Tout à fait. Mais justement, pour préparer cela, ce serait intéressant de savoir comment est-ce que Franz Stock est arrivé là, au séminaire des Barbelés.
Eh bien, nous poursuivons cette émission Bienvenue en Europe autour de Franz Stock. Et donc, nous avons évoqué le séminaire des Barbelés qui fonctionne jusqu'en 1947. Comment Franz Stock est passé de Cherbourg, des terres normandes, aux terres beauceronnes, qui sont voisines, mais enfin quand même.
C'est la belle humeur qui est allée, qui d'abord a contacté Franz Stock par courrier en lui proposant de venir diriger ce séminaire derrière les Barbelés. Lui disant qu'il ne voyait personne d'autre pour diriger ce séminaire, pour accomplir cette noble mission. Alors Franz Stock va hésiter car il est déjà très souffrant et fatigué, mais Franz Stock savait que les hommes qu'il allait accueillir au séminaire des Barbelés, c'était des hommes vaincus, c'est-à-dire blessés psychologiquement, moralement. Donc, oui, il a accepté de venir diriger ce séminaire derrière les Barbelés.
Alors la question parce que le temps s'écoule et on ne peut pas tout raconter, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'important justement, c'est comment restaurer la dignité des personnes et faire en sorte que ceux qui étaient vaincus ont pu rencontrer ceux qui étaient victorieux, puisque les gens de l'église de Chartres, entre autres. Et puis, finalement, faire en sorte que ensuite il y ait ces relations entre vainqueurs et vaincus, entre les Allemands et les Français, puisque finalement, ce sont quelquefois les Allemands qui ont poussé en France à ce qu'on reconnaisse les vertus de Franz Stock.
Absolument. Mais Franz Stock a énormément travaillé avec ses séminaristes, justement en leur faisant aimer déjà la France, en leur parlant de la France, de notre culture. Et puis, il s'est servi de cette culture. Il a fait en sorte d'instaurer un orchestre dans ce séminaire, une chorale, une troupe de théâtre. Et les amener à eux aussi à se réconcilier avec l'émigré d'hier.
Et donc, pas la leçon, mais en tout cas, dans ce qu'on peut relire, c'est finalement l'importance de la culture profane, de la culture profane, puisque dans une université, on étudie les sciences, et aussi de la culture religieuse. Finalement, c'était quelque chose d'important que parfois on oublie. On s'imagine que souvent, je crois que le reproche fait à l'Europe actuellement, c'est que c'est une Europe technicienne qui s'occupe de beaucoup de marchandises, de liberté de communication, mais qui ne s'occupe un peu moins des hommes.
Oui.
Alors là, je trouve qu'il y a... En tout cas, c'est le reproche qu'on lui fait. Donc là, il me semble qu'il y a matière à exemplarité, d'une certaine manière.
C'est une exemplarité, oui, c'est vrai. Mais... Comment dire ?
La culture, ça compte.
Absolument, absolument. Et c'était très riche au séminaire. D'ailleurs, un des séminaristes, Lothar Zenetti, a peint le chemin de croix qui se trouve au séminaire. Et la première crèche qui a été faite au séminaire pour leur premier Noël les personnages ont été réalisés par les séminaristes en terre glaise. Oui, ça a été des moments, j'allais dire, très très importants pour eux. Il a été, j'allais dire, un bon professeur.
En tout cas, tenant compte des études, mais aussi de la culture. Je pense que c'est... Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je l'Européen suis... Oui, non, je suis en admiration devant ce qui s'est passé au séminaire des Barbelés. La figure de Franz Stock n'est pas assez connue en France. Bon, à Chartres, évidemment, on la connaît, mais encore qu'elle mériterait aussi d'être explicitée, sans doute, pour bien comprendre que ce soit pour ici, notre département, la France, la région, tout notre pays, c'est une figure tellement emblématique, c'est un symbole de la réconciliation franco-allemande qui est à la base même de ce que l'on a fait pour construire l'Europe. Et en particulier en se fondant sur des valeurs dont qu'on a évoqué, mais ce sont des valeurs de respect de l'autre, des droits humains, de liberté bien sûr, évidemment la démocratie après, mais tout ça a été fait et on retrouve cela exactement lorsque, au congrès de La Haye, en 1948, quand on a voulu dire on va reconstruire l'Europe en disant plus jamais comme avant, ne recommençons pas comme vous l'avez
souligné, plus jamais la guerre,
plus jamais la guerre et pas à refaire les mêmes erreurs du traité de Versailles, pour la guerre de 14-18, eh bien là, il y a eu un mouvement extraordinaire où tous les Européens convaincus de l'époque, disant plus jamais ça, il faut faire autre chose, on va construire une Europe différente, d'amitié entre les peuples, et ce sont les mêmes valeurs à la base qui étaient celles de Franz Stock. Pour moi, c'est ça qui me marque le plus, et donc je trouve que... Je vais simplement faire un lien avec le mouvement européen pour lequel on est tous engagés, entre l'Europe, le séminaire des Barbelés, et ce n'est pas pour rien qu'on a choisi de faire exactement le siège de notre section du mouvement européen d'Eure-et-Loir au séminaire des Barbelés. Et je termine là-dessus pour dire qu'il y a un projet de muséographie qui est à l'étude et que l'on espère bien qu'il aboutira pour mettre en valeur ce lieu absolument symbolique.
Alors je pense qu'on va conclure bientôt notre émission, mais je crois aussi qu'il y a... alors, nous sommes dans une radio chrétienne, mais il y a des valeurs, vraiment des valeurs humaines, parce que les chrétiens, maintenant, ça représente 2% de la population. Mais au-delà, il y a ces valeurs humaines de culture, de lien entre les hommes, et ça, je crois que... Nous avons une devise républicaine qui indique la fraternité. Donc peut-être que Franz Stock, c'est un bon modèle, pas simplement de chrétien, mais de fraternité humaine. Parce que liberté, égalité, fraternité, c'est purement laïque. Et ça me paraît... il semble aussi que le pape a écrit une belle encyclique, Fratelli Tutti. Donc Franz Stock est bien un représentant.
Absolument, c'est la fraternité universelle, Franz Stock. Et je reprendrai la phrase... a prononcé le nom Roncalli au moment des obsèques de Franz Stock à Paris. Franz Stock, ce n'est pas seulement un nom, c'est un programme.
Alors, un programme fraternité.
Absolument.
Eh bien, merci.
Et c'est ce même évêque, archevêque de l'époque qui est devenu pape aussi.
Le pape
Jean oui, c'est vrai.
Le pape Roncalli,
qui avait connu Franz Stock. Et qui l'avait rencontré plusieurs fois.
Et qui est venu au séminaire.
Et qui est venu au séminaire.
4 fois.
Eh bien, chers auditeurs, nous quittons cette émission. Et puis, à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel pour une prochaine émission. Bienvenue en Europe. Et d'ici là, suivez l'actualité européenne. Bonne semaine à tous. Au revoir.